Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 13h à Kiev.
Karine Bellicha.
À la une, l'émissaire américain Keith Kellogg est dans la capitale ukrainienne aujourd'hui après la rencontre russo-américaine de Riyad qui avait laissé sur la touche les autorités de Kiev. Un déplacement dans un climat tendu donc, alors que Donald Trump a remis de l'huile sur le feu hier soir. Lourde actualité judiciaire en France au troisième jour du procès des djihadistes accusés d'être les geôliers d'otages occidentaux en Syrie. Parmi eux, quatre journalistes français. Trois d'entre eux sont appelés à témoigner aujourd'hui. Édouard Elias a déjà pris la parole, nous dira Laura Martel, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Et puis un autre procès s'annonce, il débutera lundi prochain, celui de Joël Le Squarnec, la plus grande affaire de pédocriminalité jugée en France. Reportage au tribunal de Vannes qui s'organise pour accueillir un procès hors norme. Keith Kellogg va-t-il réussir à réchauffer les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine est arrivé à Kiev ce matin pour sa première visite dans le pays, au lendemain de la réunion russo-américaine à Riyad, dénoncée par le président ukrainien tenu à l'écart, au lendemain également de nouvelles déclarations incendiaires du locataire de la Maison-Blanche qui estime malgré les faits que Kiev a initié la guerre et que Volodymyr Zelensky est très impopulaire. Première déclaration apaisante de Keith Kellogg, il est sur place pour écouter le point de vue ukrainien et il comprend le besoin de garantie de sécurité du pays. Mais la rencontre dans la capitale saoudienne va laisser des traces. Est-ce une nouvelle humiliation pour Kiev? Romain Lemaresky a posé la question à Ulrich Buna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy.
Une humiliation, c'est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, ça fait une couleuvre de plus à avaler, ça c'est sûr. C'est d'autant plus dur à avaler pour les Ukrainiens que Volodymyr Zelensky avait tout fait pour adouer Donald Trump en le flattant, lui proposant des investissements en Ukraine, notamment dans les terres rares, en préparant le terrain, en essayant de le courtiser depuis des mois et des mois. Et au final, depuis mercredi et l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, tout ça a volé en éclats et les Ukrainiens se retrouvent un petit peu, on va dire, entre deux eaux. Ils essayent de s'accrocher aux Européens pour peser un peu plus sur cette négociation, mais on voit bien que côté européen, c'est aussi extrêmement complexe et qu'on essaie de s'organiser dans l'urgence pour éviter d'être complètement mis devant le fait accompli. Le simple fait que les Russes et les Américains se retrouvent en Arabie Saoudite est déjà en soi relativement frappant sur la mise à l'écart en fait de tout le continent européen, on va dire sur l'avenir de l'Europe tout simplement, en tout cas de son architecture de sécurité.
Ulrich Buna, auteur de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective, interrogé par Romain Lemaresky. Et l'Europe justement tente d'exister face au tête-à-tête américano-russe. Paris est de nouveau à la manœuvre. Emmanuel Macron juge que la Russie représente une menace existentielle pour les Européens et organise une nouvelle réunion aujourd'hui à l'Élysée. Des pays européens qui n'étaient pas présents lundi lors d'un premier round de discussions sont invités, y compris par visioconférence. Le président français a entendu les appels à élargir le cercle. Les pays baltes et la Finlande notamment devraient être représentés, ainsi que des alliés des 27 au sein de l'OTAN comme le Canada. Un ballet diplomatique intense alors que la guerre en Ukraine ne connaît pas de pause. La région d'Odessa a été touchée par une attaque massive de drones la nuit dernière. Au moins 160 000 habitants de la grande ville portuaire du sud n'ont plus de chauffage ni d'électricité. Les régions de Kiev et de Zaporizhzhia ont aussi été touchées par des frappes russes. L'actualité en France à présent est direction la Cour d'assises spéciale de Paris. C'est le troisième jour du procès des hommes accusés d'être les geôliers de l'État islamique. Ils sont cinq au total, dont les Français Mehdi Nemmouche et Abdelmalek Tanem, présents dans le box. Ils sont poursuivis pour leur implication dans la séquestration d'otages occidentaux en 2013-2014 en Syrie, dont quatre journalistes français. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Vous suivez le procès pour nous depuis lundi. Aujourd'hui, les journalistes anciens otages témoignent. Édouard Elias a déjà parlé.
Oui, pendant 12 ans, il s'est tué par crainte d'être enfermé, cette fois dans un statut de victime dans lequel il ne se reconnaît pas. Il était journaliste, photographe quand il est parti, et c'est avec ce ton un peu détaché, analytique et les mots parfois crus du professionnel qu'il raconte. Son émotion, c'est surtout dans son débit ultra rapide qu'on la devine. Il est le plus jeune des otages, 22 ans quand il part, mais avec déjà l'expérience de la Syrie et des terrains de guerre. Avec son collègue chevronné Didier François, ils viennent de passer la frontière turque quand ils sont enlevés ce 6 juin 2013. Cinq hommes cagoulés qui surgissent, ils sont menottés, yeux bandés, et le premier de tant de simulacres d'exécution, à genoux, Kalachnikov sur la tempe, clac, elle n'était pas chargée. Un premier lieu de détention et 4 jours passés isolés, passés à tabac sans répit, affamés, obligés de boire dans les toilettes, et puis surtout ces hurlements incessants, jour et nuit, des Syriens torturés par centaines, leur sang sur le sol du couloir dans lequel ils glissent. C'était une machine à tuer. En 10 jours, je perds 20 kilos, je commence à craquer, à gratter les murs. Et puis un jour, ils retrouvent Didier François, et c'est ensemble qu'ils vont tenir, en se promettant de céder à se suicider si besoin, en se protégeant l'un l'autre, en décidant de rester journaliste. Écouter, retenir, pour qu'un jour, s'ils sortent, ils soient utiles. Sans taire la violence extrême des sévices subis ou vus, Édouard Elias insiste sur ces petits actes de résistance au goût des plus grandes victoires, ces actes qui permettent de s'accrocher à son humanité quand tout autour vise à l'annihiler. Comme cette bûche confectionnée avec des miettes de pain précieusement conservées par chaque otage et partagée pour Noël, ou cette fois où il a réussi à refiler les morpions dont tous étaient infestés à ses geôliers. On essaie de tenir, on garde la tête haute. Quand on est réduit à un tas de chair humaine, la dignité, c'est important, dit-il.
Laura Martel à la Cour d'assises spéciale de Paris. Un autre procès s'annonce, celui de l'affaire Joël Le Skouarnec. C'est sans doute la plus grande affaire de pédocriminalité jugée en France. Cet ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 enfants entre 1989 et 2014. Dans plusieurs hôpitaux, son procès devant la Cour criminelle du Morbihan s'ouvre lundi prochain à Vannes, dans l'ouest de la France. Un procès qui sera lui aussi hors norme et très médiatique, 2 mois après celui des viols de Mazan. La ville de Vannes, 50 000 habitants, et son tribunal se préparent à l'accueillir depuis des mois, et cela nécessite une réorganisation de l'activité du tribunal avec des moyens humains et budgétaires très limités. Baptiste Coulon nous raconte, reportage.
300 victimes, 60 avocats, des dizaines de journalistes attendus. Jamais le tribunal de Vannes n'a accueilli un procès aussi hors norme. Cela fait 3 ans que l'organisation a débuté dans cette petite juridiction, mais une juridiction loin d'être seule dans les préparatifs. Ronan Leclerc est le secrétaire général du parquet de Rennes.
Nous avons demandé à ce que nos collègues, notamment parisiens, qui ont en charge l'organisation du procès V13, mais qui sont également intervenus dans d'autres procès, comme celui de Nice, puissent nous faire un retour d'expérience de manière à ce qu'on puisse profiter de leurs acquis en termes de méthodologie.
Car le procès va durer 4 mois, mobiliser 7 magistrats, sans que l'activité du tribunal ne cesse pour autant. Un casse-tête, mais là aussi tout est affaire d'anticipation.
Il a fallu faire tout un travail en amont pour que les dossiers criminels autres que celui de Monsieur Le Skouarnec puissent être examinés avant le procès de Skouarnec et après le procès de Skouarnec, en veillant bien d'ailleurs à ce que les délais qui nous sont imposés par la procédure pénale le soient pleinement.
Ce procès hors norme a aussi un coût pour la justice. 3 millions d'euros pour aménager 3 annexes à la petite salle du tribunal. L'une pour le public, une autre pour la presse et un ex-amphithéâtre d'université pour accueillir les parties civiles.
J'ai rendez-vous avec monsieur le maire.
Le maire de Vannes, David Robot, l'a mis à disposition gratuitement.
Chacun de vos éditeurs connaît l'état des finances publiques et celle du ministère de la Justice. Vous voyez mal demander un loyer. Je pense qu'en tant qu'élu de la République, on doit servir la justice. Si je peux ramener de la fluidité plutôt que de la complexité à ce procès, j'en serai content.
Et puis il faut accompagner les parties civiles. C'est le rôle de l'association France Victimes 56. Sa directrice, Karine Duneuf-Jardin, en a déjà reçu plusieurs dans son bureau.
Elle se retrouve engagée dans une machine judiciaire où il faut appréhender aussi les termes, comprendre mais c'est quoi se constituer partie civile, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis obligée de prendre un avocat, combien ça va me coûter. Donc nous, on est là vraiment pour les informer et qu'elles aient le maximum d'éléments en leur possession pour prendre leurs décisions.
Et pour les épauler durant l'audience, France Victimes met à disposition une juriste.
Ici, on a le bureau donc de la psychologue.
et seulement une psychologue.
Il eût été préférable d'en avoir deux.
Mais le recrutement d'une seconde praticienne a été stoppé net il y a quelques semaines. André Roland est le président de l'association.
Nous n'avons pu travailler qu'à moyen constant. Pour une raison très simple, c'est que la France n'avait pas de budget. Alors peut-être que ça va arriver maintenant qu'on a un budget.
Deux psychologues, ce serait un minimum, estime André Roland, pour accompagner les 300 victimes présumées de Joël Le Skouarnec.